Chapitre 31.5 Vous êtes le sel de la terre. Nous voulons maintenant vous soumettre le programme de la magie gnostique et vous en montrer l'utilité et la nécessité. Elle constitue la seule manière de sauver le monde et l'humanité. Pour commencer, nous vous présentons la personne de Jésus-Christ, le Fils du Père, dont nous devons tous être les imitateurs. Nous l'avons choisi comme exemple parce que nous voyons qu'il est homme et Dieu, c'est-à-dire qu'il fut un être né de la nature et une âme renée. Le cours de sa vie entière témoigne que, sur le plan de l'âme, il était totalement libre, qu'il était un libre citoyen du ciel-terre, tandis qu'en tant que né de la nature, il avait atteint ce qu'un tel être est en mesure de réaliser de plus haut. Selon la nature, il était totalement transfiguré. Il se trouvait donc totalement dans ce monde, mais, en tant qu'homme âme, il n'était plus de ce monde. Comme tel, il avait la capacité d'exprimer tous les aspects du cosmos. Il ne faisait qu'un avec le logos de la terre et avec l'esprit de la terre. Il s'élevait dans le ciel et de là descendait sur la terre qui, comme le dit la Bible, est le marchepied de Dieu. Il était donc tout puissant dans le cosmos entier et il lui avait été donné tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Si vous regardez sa personne comme un modèle pour une véritable imitation, à laquelle lui-même vous invite, à laquelle vous incite parce que vous en avez le pouvoir, étant donné que vous ne voulez plus le regarder comme une idole inaccessible ou comme le personnage d'un conte de fées, considérez-le en fait comme la haute vocation à laquelle nous sommes tous appelés et, en tant que membre d'une école spirituelle gnostique, voyez que par lui, avec lui et en lui, se révèle le programme entier de la magie gnostique. Et vous découvrez non seulement qu'un amour plein d'élévation et de sérénité émane de vous, mais aussi que vous conférerez tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. En y réfléchissant, vous comprendrez qu'il n'y a pas un moment où il n'y a rien suivi d'un moment où il y a tout. Qu'il s'agit d'une croissance, d'un chemin que chacun suit à son propre rythme, et que dès le plus petit progrès sur le chemin, la grâce, la force et l'amour de Dieu augmentent déjà chaque jour, pourvu que vous vous débarrassiez de toutes les légendes et contes de fées que l'Église vous a racontées et dont elle vous a chargé depuis votre jeunesse. Disons-le encore une fois, considérez Jésus le Seigneur comme le prototype de l'homme nouveau unique, ce que vous devez devenir vous-même dans toute sa grandeur. Mais ne venez pas nous demander « Par où dois-je commencer ?» Commencez par votre propre commencement, comme vous l'indique votre vie personnelle. Rendez droit vos chemins, là même où vous êtes, là où vous demeurez, là où vous vivez. Soyez un homme Jean sous tous les rapports, c'est-à-dire dans tous les aspects de votre rayon d'action du moment. Le rayon d'action des uns sera peut-être plus grand que celui des autres, mais peu importe. Si quelqu'un dont le rayon d'action est plus grand que le vôtre n'en fait pas usage, alors que vous exploitez le vôtre, éventuellement plus petit, votre action sera plus grande que la sienne. Il apparaît donc que vous avez la possibilité de pratiquer l'imitation de Jésus-Christ immédiatement. Que tous, ensemble, nous sommes en mesure de former un seul groupe et que nous devons être remplis du plus grand respect possible les uns pour les autres. C'est ainsi que se constitue un groupe décidé, la communauté de Jean, laquelle, dans le désert, parcourt son chemin en ligne droite vers le but unique. Ainsi sommes-nous tous baptisés d'eau vive, l'eau vive de l'âme du monde qui nous englobe tous. Affirmons encore une fois avec insistance, le cosmos déchu tout entier est entouré, enveloppé par l'âme du monde, et tous ceux qui s'y ouvrent et oublient leur moi en reçoivent les rayonnements dans leur être. Vous comprenez qu'on ne doit pas seulement en parler, qu'on ne doit pas seulement s'orienter de façon mystique, qu'on ne doit pas seulement s'accorder intérieurement à ce chemin, mais qu'il est d'une nécessité absolue d'avoir un comportement concret, s'écartant complètement de tout comportement ordinaire. C'est une exigence. Si la sérénité de l'âme du monde vous touche, si les valeurs qu'elle rayonne pénètrent jusqu'au tréfonds de votre être, optez pour le comportement correspondant, un comportement intérieurement pur, un comportement évidemment totalement différent de celui des hommes qui ignorent absolument le but unique de l'humanité. Vous trouverez la structure, l'enseignement et les lignes directrices d'un tel comportement, comme nous l'avons fait remarquer précédemment, dans le sermon sur la montagne. Dès que vous avez commencé à jeter les yeux plus ou moins inconsciemment sur votre vie, le sermon sur la montagne était peut-être déjà à votre portée. C'est pour cela que l'homme l'a reçu. Quand on ne connaît pas le but de l'humanité, quand on ne suit pas l'orientation de l'homme Jean et que l'on se tient sur le plan ordinaire de la vie issue de la nature, le sermon sur la montagne est une impossibilité et ne suscite qu'opposition. Vous êtes alors toujours en conflit grave avec tout ce qu'il contient. Nous allons donc vous faire maintenant une demande. Lisez le sermon sur la montagne une fois par jour. Réfléchissez-y une fois par jour pendant quelques instants. Si vous voulez que cela porte ses fruits, il est logique que vous le fassiez dans une optique appropriée, d'un point de vue correspondant. Il faut alors chercher un plan de vie différent. Il faut chercher à se placer sur un plan bien supérieur à celui de l'homme moyen, et c'est sur ce plan qu'il faut baser votre comportement. Les élèves d'une école spirituelle gnostique témoignent que, depuis longtemps déjà, ils cherchent un autre plan de vie. Autrement, pourquoi seraient-ils devenus élèves ? Mais écoutons donc cet avertissement. Que personne ne grimpe trop haut. Ne montez que jusqu'au point où vous pouvez vous maintenir, un point d'où vous ne pouvez pas tomber. Éventuellement, vous ne soyez pas un objet de risée. Ne dites pas « je suis à ce niveau », alors qu'en réalité, vous êtes bien en dessous. Nous disons que nous gravissons la montagne quand nous montons à un niveau supérieur et que nous nous y maintenons. Et il est évident que la rencontre avec le prototype de l'homme noble et véritable se fait à ce niveau. Si vous acceptez nos propositions, écoutez les béatitudes du sermon sur la montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans toutes les phases et à toutes les époques appropriées, il y a toujours sur terre une multitude d'hommes de nature exceptionnelle. Ce sont ceux qui, à un moment donné, comprennent par intuition qu'il doit exister une autre vie, concrète et nouvelle, une vie que n'expliquent ni les phénomènes mystiques, ni les aspects de l'humanitarisme, et certainement pas le moi de l'homme. Et à mesure que l'époque avance, pour les hommes de cette multitude, à mesure que l'époque donne des signes évidents qu'elle court à sa fin, que cette multitude ne voit pas encore son orientation récompensée par quelques résultats, se développe parmi elles un champ de tension grandissant. Imaginez un être humain ainsi orienté, extérieurement touché par l'âme du monde. Les forces de la vraie lumière le touchent en raison de son orientation. Il s'efforce de rendre ses chemins aussi droits que possible. Mais pour le moment, il constate que la vie est un désert. Sous un pareil attouchement, dans une telle expectative, naît en lui une grande tension. Il doit bien pourtant y avoir une issue. Une solution apparaîtra bien un jour pour l'humanité entière, pour l'existence humaine. La victoire aura bien lieu. Cet état psychologique, cette tension engendre intérieurement, c'est inévitable, une sublimation. Tout au moins, les possibilités d'une sublimation. La préparation est à accomplir, et quand cette tension monte jusqu'à provoquer une crise, les actes de celui qui appartient à cette multitude exceptionnelle doivent se révéler. Il doit apparaître qui, dans ce groupe, dans cette multitude, sera réellement un disciple de Jésus-Christ, notre Seigneur, le prototype de l'homme noble et supérieur. C'est ce que veut dire le début du sermon sur la montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus le Seigneur part d'un point de vue exclusif. Et comment pourrait-il en être autrement? Il se place sur un plan supérieur à celui dont on a l'habitude dans le monde dialectique et il attend, en fonction du développement de la foule présente, que ceux qui comprennent vraiment viennent à lui. À partir du niveau dialectique de l'homme né de la nature, il ne sert à rien de porter ses regards vers le haut pour saisir quelque chose des paroles du sermon sur la montagne. Non, on doit être en mesure de se tenir psychologiquement aussi haut que la montagne. Alors seulement on est capable de comprendre totalement, de comprendre ce que jusqu'alors on considérait comme absolument impossible. Une voix retentit en vous. Va vers la gloire. Un optimisme si immense et si universel vous est transmis, un accomplissement si grandiose et merveilleux vous est annoncé, que tout ce que nous avons tenté de vous expliquer sur l'homme-âme disparaît en comparaison. Celui qui peut échapper à l'orientation de l'être né de la nature, donc qui peut s'élever psychiquement, c'est-à-dire intérieurement, éthériquement sur le plan supérieur, appelé sommet de la montagne, donc donne la preuve que les qualités d'âme déjà rassemblées sont efficaces et réellement actives. Celui-là entend ces paroles très positivement, comme un mantra écrit au fond de lui en lettres de feu. Heureux ceux qui aspirent à l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dès que ce nouvel état psychique est un fait acquis et que l'homme établit sans aucun doute une liaison avec l'âme du monde, il entre dans le rayon d'influence du royaume de Dieu et il entre dans la béatitude. Et il ne reste plus qu'à pratiquer le comportement correspondant pour éprouver, prendre conscience et faire durer cette béatitude tel un consolamentum. De cet état d'être durable émane une consolation qui donne le pouvoir de supporter absolument toutes les souffrances inhérentes à la naissance dans la nature. Un tel être est alors confronté à l'héroïsme des débonnaires. Ce sont exclusivement de tels êtres qui vaincront et hériteront la terre. Ils feront disparaître le fouet de l'ignorance avec toutes ses conséquences. Et il ne fait aucun doute que ceux qui vivent dans cet état supérieur plein de sérénité ont faim et soif de la justice, et qu'ils seront tous rassasiés sans exception, que les miséricordieux obtiendront miséricorde, que ceux qui ont le cœur pur éprouveront la présence de Dieu en eux, et que ceux qui procurent la paix connaîtront la paix intérieure des enfants de Dieu. Tout cela n'implique-t-il pas un réveil de l'âme, une rapide croissance de l'âme, une progression menant toujours plus près du centre du nouveau règne? C'est pourquoi la béatitude se trouve aussi dans la persécution pour la justice, dans l'outrage et l'oppression. C'est que la contre-nature ne tolère pas que la nature divine se trouve au milieu d'elle et avance rapidement le long de ses propres voies. Dans ce sens, le feu de la persécution menée par la contre-nature prouve sa faiblesse et sa fuite. Il vous est donné de vivre de cet état supérieur, d'entrer dans la grandiose réalité. Il est donc nécessaire que vous réfléchissiez clairement à cette tâche, une tâche qui vous revient uniquement si vous vous livrez à une écoute intérieure des béatitudes, si vous en ressentez la force et si vous êtes fermement décidé à demeurer sans cesse sur ce plan de vie nouveau.